Voici une question dont la réponse fera certainement du bien à ceux qui sont victimes de l'injustice. Est-ce à notre avantage de ne pas nous venger nous-mêmes de nos ennemis? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse solide aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'aime tellement ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant David. Je suis certaine qu'on va être béni une fois de plus aujourd'hui quand on va entendre les réponses aux questions que voici. Dans la vie de David, pouvons-nous voir la position de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus? Est-il important d'être attentif aux conseils d'autres croyants? Est-ce que Dieu défend toujours ceux qui ne se vengent pas eux-mêmes de leurs ennemis? Quand Dieu dit qu'un tel est un homme selon son cœur, est-ce que ça signifie qu'il approuve tout ce qu'il fait? Restez des nôtres, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous enseigner ce qu'elle dit pour nous édifier, pour nous aider à mieux connaître notre grand Dieu merveilleux. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, je veux te dire que tu es merveilleux, que tu es bon envers nous, que tu mérites toute notre adoration, nos louanges, que tu es digne d'être adoré constamment par nous et qu'on veut, Seigneur, mieux te connaître par tes Écritures pour être de vrais adorateurs. Fais-toi connaître à nous d'une manière encore plus profonde aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que David a eu une occasion de tuer le roi Saül, mais il a refusé de le faire parce que le roi était loin de l'Éternel. David a choisi de laisser à Dieu le soin d'éliminer son ennemi. Nabal, un propriétaire méchant, a refusé de donner des provisions à David et à ses hommes qui avaient protégé ses biens et ses troupeaux. David était en route pour exterminer la maison de Nabal lorsque son épouse, femme belle et intelligente, alla au-devant de David pour l'empêcher de commettre le mal. Chers amis, débutons notre lecture d'aujourd'hui et allons voir ce qu'Abigaël, l'épouse de Nabal, dit à David. 1 Samuel, chapitre 25, les versets 25 à 28. « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » David n'est qu'au début de sa carrière. Plus tard, il commettra un péché grave, mais jusqu'ici, il a mené une vie exemplaire, fidèle à Dieu. Il cherchait à plaire à Dieu en toutes choses. Abigaïl admirait ce trait de caractère chez David. Verset 29. « S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. » Quoiqu'elle ne le nomme pas, Abigaïl parle de Saül qui poursuit David. Puis elle dit une chose remarquable au sujet de David. « L'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. » Chers amis, les croyants sont en Jésus-Christ. Nous avons ici une description exacte de la position du croyant dans le Christ Jésus. Dans sa première épître, l'apôtre Jean appelle Jésus « vie éternelle », la vie éternelle. Il dit « Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. » 1 Jean chapitre 1, verset 2. Lorsque vous et moi mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus pour notre salut, l'Esprit Saint nous baptise dans le corps des croyants. Paul dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous et moi sommes joints au corps des croyants, au corps de Christ, par notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes liés dans le faisceau des vivants auprès du Seigneur Jésus-Christ. Puis, Abigaïl ajoute, il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. David savait ce qu'était une fronde. Il en a utilisé une pour tuer Goliath, ce qui était connu dans tout Israël. Abigaïl poursuit avec ses paroles, versets 30 et 31. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Abigaïl dit à David, « Ne nous tiens pas rancœur pour ce que mon mari t'a fait. Tu seras le roi d'Israël. » Je peux m'imaginer David monté sur son cheval, regardant cette belle femme prosternée sur le sol à son sujet. Versets 32 et 33. David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. » Chers amis, acceptez-vous les conseils de chrétiens qui veulent vous épargner des malheurs? Ici, David est reconnaissant envers cette femme qui l'a empêché de faire un péché grave qu'il aurait regretté amèrement. La parole de Dieu nous exhorte de veiller les uns sur les autres. Versets 34 et 35. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. » David a bien accueilli Abigaïl, et il a accepté ses provisions et ses conseils précieux. Versets 36 à 38. Abigaïl arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais, le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Nabal avait fait la noce toute la nuit. Le lendemain, il était sobre et Abigaïl lui a raconté ce qui s'était passé avec David. Alors, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Nabal ne souffrit pas seulement de la migraine provoquée par une bonne cuite, mais aussi d'un malaise cardiaque. A-t-il eu une crise cardiaque? C'est possible. Cependant, Dieu a poussé Abigaïl à intervenir, sinon les mains de David auraient été tachées du sang de Nabal. Ce n'est pas ce que Dieu voulait, et Dieu est intervenu dans cette histoire. Que va faire David? Il y a une jolie veuve qui habite le désert de Paran. Elle est la seule femme qui lui fut une source de bénédiction. Poursuivons notre lecture, verset 39. David apprit que Nabal était mort, et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Lorsque David apprit la mort de Nabal, il voulut prendre Abigaïl comme épouse. Lorsqu'elle était venue au devant de David, elle lui avait dit, « Et lorsque l'Éternel aura fait du bien, mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David ne pouvait pas oublier Abigaïl. Savez-vous pourquoi? Elle avait fait appel à ce qu'il y a de mieux chez David. Elle lui avait donné d'excellents conseils. Je pense que ce fut le coup de foudre lorsque David vit Abigaïl. Voit-on la main de Dieu dans ce qui nous arrive? Dieu avait aussi reconnu la main de Dieu dans ces événements. Dieu peut utiliser la beauté. Ce jour-là, sur une route d'Israël, alors que David remerciait Abigaïl, deux grandes âmes se tenaient l'une devant l'autre. Maintenant que Nabal est mort, David lui propose le mariage et elle accepte. C'est le début d'une nouvelle phase dans la vie de David. Sommes-nous prêts à reconnaître la main de Dieu dans notre vie, dans nos circonstances, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons? Cependant, David fit une chose que Dieu n'approuvait pas. C'est ce que nous lisons dans les versets 43 et 44. David avait aussi pris Achinoam de Jisraël, et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Le péché est entré dans la vie de David. Il était un homme rude, et il eut une vie rude. Un jour, il commettra un meurtre. Parce que Dieu a affirmé qu'il était un homme selon son cœur, est-ce que cela signifie qu'il a approuvé tout ce que David a fait? La réponse est non. Nous verrons plus loin que David a désiré construire un temple à l'Éternel, mais Dieu ne le lui a pas permis, car il était un homme de sang. Maintenant, chers amis, au chapitre 26, nous allons voir David épargner la vie de Saül une nouvelle fois. Saül savait que Dieu avait choisi David pour lui succéder sur le trône d'Israël, mais il cherchait tout de même à le tuer. David savait que Saül fut loin de l'Éternel pour régner sur Israël. Donc, il refusa de porter la main sur lui. Notez le contraste entre ces deux hommes. Débutons notre lecture de 1 Samuel, chapitre 26, versets 1 et 2. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibea et dirent, « David, n'est-il pas caché sur la colline de Hakila, en face du désert? » Saül se leva et descendit au désert de Ziph, avec 3000 hommes de l'élite d'Israël, pour chercher David dans le désert de Ziph. Saül se met de nouveau en campagne afin de capturer et tuer David qui a fui dans le désert. En apprenant cela, Saül s'est mis à sa poursuite. David connaissait bien la région et le terrain. Il était accompagné d'hommes loyaux disposés à mourir pour lui. Saül ne connaissait pas la région ni son terrain. De plus, ses hommes ne lui étaient pas plus loyaux qu'il le fallait, et Saül se méfiait de certains d'entre eux. Versets 3 et 4. Il campa sur la colline de Hakila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saül marchait sa poursuite au désert, il envoya des espions, et apprit avec certitude que Saül était arrivé. David ne croyait pas que Saül commettrait l'erreur de le poursuivre dans cette région. Il envoya des espions afin de confirmer les rapports qu'il avait reçus. Verset 5. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül coucha au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. De leur cachette, David et ses hommes pouvaient épier Saül. Ils observaient tous ses mouvements, ses moindres gestes. Versets 6 et 7. David prit la parole, et s'adressant à Achimélec, Éthien, et à Abiscaï, fils de Tsiruja et frère de Joab, il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abiscaï répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abiscaï allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. David et Abiscaï s'approchèrent du camp de Saül, et ils aperçurent l'endroit où leur roi dormait. Verset 8. Abiscaï dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. » Abiscaï voulait en finir une fois pour toutes avec Saül. Il aurait pu le tuer d'un seul coup de lance. Verset 9. Mais David, dit à Abiscaï, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Une fois encore, David refuse de tuer loin de l'Éternel. Il craint Dieu, il respecte le plan selon Dieu. Verset 10. Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. C'est à Dieu de nous rendre justice. » David dit que c'est à Dieu de s'occuper de Saül. Il met ici en pratique le principe que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 30. « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Cette citation est une parole de Dieu, ainsi que celle que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. » Laissez agir la colère de Dieu. Revenons à notre texte, 1 Samuel, chapitre 26, versets 11 et 12. « Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Personne ne s'est réveillé quand David s'empara de la lance et de la cruche de Saül, car l'Éternel avait plongé la garde de Saül dans le sommeil. Dieu est au contrôle, chers amis. Verset 13. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Plutôt que de retourner vers ses hommes, David se tint sur une colline éloignée de façon à pouvoir facilement fuir, si nécessaire. Versets 14 à 17. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme ? Et qui est ton pareil en Israël ? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon seigneur. » Laissons-nous Dieu s'occuper de nos ennemis ? David est sarcastique à l'égard d'Abner, qui aurait dû mieux veiller sur son maître. David ridiculise Abner en lui démontrant que le roi Saül aurait pu facilement être tué. Le roi et ses hommes se réveillent et ils se demandent ce qui se passe. David demande, « Où sont la lance et la cruche de Saül ? Elles ne sont plus là. » David devait les tenir haut dans sa main afin que tous voient qui les avait prises. Le message était clair. J'aurais pu tuer Saül, mais je ne l'ai pas fait. Le fait que David n'ait pas tué Saül est un détail important. Cela démontre sa bonne attitude dans cette affaire. David laisse Dieu mener son plan à terme. C'est facile de critiquer David, mais laissons-nous Dieu s'occuper de nos ennemis? Nous prenons les choses en main et nous cherchons à régler nous-mêmes le problème lorsque quelqu'un s'oppose à nous ou porte des accusations fausses contre nous. Dieu nous demande de lui faire confiance et de le laisser régler le problème. Nous verrons que David a fait confiance au Seigneur et que Dieu a fait périr Saül en temps et lieu. Versets 21 à 25. Saül dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, j'ai fait une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. » L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Quoique Saül ait reconnu ses torts une deuxième fois et qu'il ait laissé tomber sa poursuite de David, celui-ci savait que ce n'était que partie remise. David devient découragé, il est épuisé par ses années de fuite et il est fatigué d'avoir à se déplacer d'une caverne à l'autre. Nous avons dans le texte étudié aujourd'hui deux merveilleux exemples. Celui d'Abigaïl, qui, au lieu de confronter un adversaire et réclamer ses droits, agit avec diplomatie, humilité et sagesse. Elle a ainsi épargné la maison de son mari, et cela a aussi évité des conséquences désastreuses dans l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui se serait produit si David avait commis le péché d'exterminer la maison de Nabal. Ensuite, nous avons cet exemple de David. Il refuse de mettre lui-même la main sur loin de l'Éternel. Il laisse à Dieu le contrôle de sa vie, dans le temps de Dieu. Et toi, laisses-tu à Dieu le temps d'agir dans ta vie? Chers amis, prochaine émission, 1 Samuel, chapitre 27, verset 1er, à chapitre 28, verset 25.
Oh, merci beaucoup, Régent. Mes amis, avez-vous remarqué l'humilité de David au cours de l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui? On a vu à la dernière émission que David ne s'était pas vengé lui-même de Saül, qui lui faisait constamment du mal. Mais aujourd'hui, on a vu que David était sur le point de se venger de Nabal quand il a rencontré sa femme qui est venue lui demander de ne pas le faire. David a écouté tout ce qu'elle avait à dire et il a écouté son conseil. Il a changé d'idée. Et une fois de plus, c'est Dieu qui s'est chargé de son ennemi. Et Nabal est mort sans que David ait pris lui-même la chose en main. Et non seulement est-ce que l'ennemi de David a été vengé par Dieu, mais en plus, sa femme est devenue la femme de David. Oh, mon ami, vois-tu la main de Dieu dans ce qui est arrivé à David? Peut-être que tu souffres d'une injustice quelconque en ce moment. Eh bien, n'oublie pas que Dieu voit tout. Il sait tout ce qui se passe dans ta vie. Il connaît ta douleur. Il connaît même les projets de tes ennemis. Il ne t'arrivera rien sans que Dieu ne le permette. Dans l'Évangile de Jean, au 19e chapitre, au verset 10 et 11, on peut voir Pilate qui a dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et Jésus lui a dit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » On sait bien que Jésus aurait pu ne pas se laisser arrêter ce jour-là, mais que son heure était venue de donner sa vie pour nous. Pilate n'avait pas le pouvoir qu'il croyait avoir, mais Dieu avait décidé que ce jour-là, Jésus deviendrait notre substitut à la croix. Et Jésus s'est laissé clouer sur une croix. Il est mort pour payer à ma place, pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Mon ami, Jésus est mort pour toi aussi. Il savait que tu naîtrais un jour et que tu pécherais en désobéissant à sa parole. Et son désir, ce n'est pas que tu périsses, que tu passes l'éternité en enfer. Il ne veut pas se venger, il veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. On mérite tous le châtiment éternel pour nos péchés, mais dans son amour, Jésus a accepté de payer à notre place. Jésus est mort sur la croix pour toi, mon ami, et en ce moment, il se sert de ma bouche pour te dire qu'il veut te pardonner, te donner la vie éternelle. Tout ce que tu as à faire, c'est de te reconnaître coupable devant Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, je t'encourage à avouer que tu es un pécheur. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et reconnais Jésus comme étant ton sauveur. Demande-lui de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle et il va le faire tout de suite si tu lui demandes avec un cœur sincère. Entends-tu la voix du Seigneur? Réalises-tu que c'est à toi qu'il s'adresse personnellement en ce moment? Il veut te donner encore plus que juste un baume sur ton cœur pour ce que tu souffres maintenant. Il veut te consoler pour l'éternité. Il veut que tu sois dans la joie avec lui pour l'éternité. Reçois Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Reçois le don gratuit de la vie éternelle et tu vas être heureux avec Dieu et il essuiera toutes larmes de tes yeux.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire la correction,
parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca. Adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.